Alors, je vais enchaîner à tout ce que Père Siméon a dit, en essayant de voir un petit peu, c'est un peu le but de cette causerie d'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de prétention ce que je vais vous dire, mais l'héritage spirituel de Saint-Silouane d'un côté et de l'autre, l'héritage spirituel de ce lieu où nous sommes aujourd'hui. En discutant avec des personnes qui ont connu les débuts, aujourd'hui sont quasi tous au cimetière, il faut être très, très clair. Eh bien, lorsqu'ils parlent du vieux Pethel, avant la reconstruction des années 50, ils parlaient toujours de la Sainte Cave. La Sainte Cave. Au fond, cette paroisse n'avait rien de bien attirant. Dans une période de grand tumulte, de grande division, si sainteté il y a eu, c'est parce que les gens se sont tenus à l'essentiel. Et c'est dans cette perspective-là que je vais essayer de vous parler de Monseigneur Séraphin, qui est un fils de cette maison. Je vais essayer d'être bref. Ce ne sera pas forcément simple parce que vous imaginez bien, les gens de cette génération-là, il est né en 1905, il est né au ciel en 97, ont tous vécu, pour ceux qui ont survécu, des choses absolument inouïes, évidemment. Entre la Révolution, etc., la guerre civile et tout, des souffrances innombrables, mais ils ont survécu. Par la grâce de Dieu et par l'amour sans aucun doute. Et évidemment, Monseigneur Séraphin, quand je viens ici, est présent parce que juste au-dessus de la porte, la fresque qui est là, elle a été certes retouchée, mais elle lui est due. Et je vous parlerai un petit peu, juste en passant, parce qu'on n'a pas le temps, de ce climat extraordinaire de Pethel, de ces années du début. Monseigneur Séraphin, alors vous me direz pourquoi moi je vous en parle, tout simplement parce que, vu mon âge, je ne suis pas bien vieux, je l'ai connu à la fin de sa vie et je l'ai servi comme cellérier, si vous voulez, comme kiléni, comme. Je l'ai servi les 5 dernières années de sa vie. Alors évidemment, c'est un homme qui arrive au bout de son chemin spirituel en ayant à la fois le regard vers le passé, ce qu'il a pu faire, ce qu'il n'a pas pu faire, et en même temps en se préparant à la rencontre avec celui qui était l'objet de tout son amour, c'est-à-dire avec Dieu. Donc c'est toujours une période extraordinaire quand on accompagne quelqu'un dans les dernières années, parce que quelque part on ne peut plus tricher. On est en face des choses telles qu'elles sont. Alors il est évident que c'est à la fois difficile et facile de parler de Monseigneur Séraphin. Difficile parce que, évidemment, il y a tellement d'aspects dont on pourrait parler, mais surtout parce qu'énormément de gens sont morts, que les témoignages restants sont peu nombreux. Il y a en fait tout un travail de recherche qui serait à faire. Dépouiller les archives pour celles qui peuvent rester, etc. En même temps, Monseigneur Séraphin, peut-être parmi vous, il y en a peut-être une personne ou l'autre qui l'ont peut-être connu, mais connu, est-ce que c'est connu dans l'intimité ou simplement l'avoir rencontré? Parce que Monseigneur Séraphin a quitté Pethel au milieu des années 40 déjà, lorsque le métropolite Nicolas lui a demandé de reprendre la paroisse provisoirement. La paroisse de Zurich, et puis il y a eu Genève qui a été fondée juste au milieu des années 40, ce qui plus tard permettra à cette paroisse de devenir la représentation du patriarcat après le Conseil œcuménique. Alors, métropolite a dit, oui, vous allez juste remplacer à Zurich. Parce que pour Monseigneur Séraphin, c'était un véritable exil. Un exil parce qu'il se disait. Ça, il me disait toujours avec beaucoup d'humour, quand je lui posais la question, je dis, mais Monseigneur Séraphin, pourquoi vous ne parlez pas suisse alémanique, alors qu'il parlait énormément de langues? Il me regardait et puis disait, Père Martin, voyons, on ne peut pas parler une langue que les gens n'écrivent pas. Et c'était très drôle, il prétendait ne pas avoir d'accent en français, mais il en avait un très délicieux. Lorsqu'il parlait français, il prononçait toutes les lettres et on voyait qu'il avait appris le français écrit. Alors il n'y avait pas une faute de ce point de vue-là et c'était très drôle. Il parlait d'un cyprès. Je dis non, Monseigneur, c'est un cyprès. Ah oui, cyprès, vous avez raison. C'était comme ça. Donc, juste cette petite anecdote pour vous dire que pour lui, le milieu parisien, qui à la fois dans sa jeunesse l'a beaucoup séduit, dans lequel il s'est senti bien, l'effervescence intellectuelle, artistique, spirituelle de ces années-là, tout d'un coup de se retrouver dans une ville obscure, pour lui, a été particulièrement difficile. Mais je laisse cet aspect-là. Je vais vous donner peut-être 2-3 points dans sa vie pour que vous voyez un petit peu qui il est pour ceux qui ne l'ont pas connu. Donc, il est né le 24 avril 1905 à Moscou, dans une famille cosaque, du Don, de la noblesse. Et son nom au monde était Vladimir Ivanovitch. Et il a, Radionov, oui. Et il recevra donc l'éducation raffinée de son milieu, ce qui fait que dans la vie courante, il n'était pas toujours très commode. Parce que parfois, il disait, on mange, Père Martin, on mange. Puis je dis, oui, Vladimir, il faut préparer le repas. Alors, ce n'est pas du tout qu'il était de nature impatiente, mais évidemment, avant la Révolution, il y avait déjà l'électricité, les voitures et tout ce que vous pouvez imaginer. Et il y avait des choses qu'il ne l'abordait simplement pas. Dans un milieu du côté de son père, de militaire, qui servait dans la garde à Saint-Pétersbourg, du côté de sa maman, c'était des artistes. Et pour toutes sortes de raisons dans lesquelles je n'entrerai pas, il a grandi à Moscou, avec sa mère, dans la famille de sa mère, au milieu des artistes. Et c'est un peu extravagant, mais il disait, vous vous rendez compte, Père Martin, on m'a donné mon professeur de dessin à l'âge de 2 ans. C'est idiot. Mais enfin, c'était quelque chose qu'il avait vraiment dans le sang. Et donc, il a apparemment présenté, sa mère était peintre aussi, certains talents dans la peinture, dans le dessin, et en même temps pour les sciences. Et apparemment, il devait quand même avoir des dons réels pour le dessin, parce qu'il a pu être admis à titre exceptionnel à l'école de peinture, de sculpture et d'architecture de Moscou, alors qu'il était encore gymnasien, autrement dit lycéen. Je passe sur la Révolution, parce que ce serait presque des lieux communs pour tous ceux de son milieu, de ce qu'ils ont pu souffrir. Et en 1923, il peut enfin quitter la Russie. Il a 18 ans. Il était, pour un détail, il avait essayé de fuir la Russie par l'extrême-orient, comme beaucoup, et puis il a été arrêté à un moment donné, son train a été arrêté. Mais c'est vrai qu'il faut que je vous raconte, parce que c'est tellement invraisemblable, cette histoire. Donc on est en pleine guerre civile, enfin. Alors, il se trouve qu'on Son grand-père, je crois, devait partir faire une expédition, faire des recherches, etc., du côté de la Sibérie, le Caucase, enfin, j'en sais rien quoi. Et puis, il avait besoin, pour accompagner dans cette expédition, de gens qui montaient à cheval. La bonne affaire pour le jeune Vladimir. Et il part. Son grand-père est parti avant. Puis, à un moment donné, le train qui part vers la Sibérie est arrêté. Dans le convoi, c'est un détail qui est assez amusant, les soviets avaient trouvé que les abeilles moscovites étaient meilleures que celles qui étaient dans une autre région. Alors, en pleine guerre civile, il y avait un wagon avec des ruches. Et l'idée, c'était d'implanter ces ruches moscovites qui probablement seraient meilleures communistes, j'en sais rien. Enfin, bref, pour dire que c'est vraiment une période un peu folle. Enfin, il y a des trucs absolument invraisemblables. Mais ce qui permet aussi de montrer qu'au travers de toutes ces souffrances, la vie, les fleurs de la vie ont pu quand même pousser. Et à un moment donné, le train est arrêté. Et on dit, le train ne peut pas aller plus loin parce qu'il y a une épidémie de choléra. Et son compartiment s'arrête pile devant une église avec une grande fresque de Saint-Nicolas. Et lui voit devant cette église un monceau de cadavres qu'on est en train de brûler. Forcément, une épidémie. Et lui a été tellement bouleversé, il se tourne vers Saint-Nicolas, il dit « Saint-Nicolas, Saint-Nicolas, toi qui es si bon, comment est-ce que tu peux laisser faire une chose pareille ?» Et du coup, il était fâché avec Saint-Nicolas sa vie durant. J'ai su cette histoire-là parce que je lui ai demandé quand il était à la fin de sa vie, je lui ai dit « Mais Monseigneur, vous êtes vraiment réconcilié avec tout le monde ?» Oui, 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 enfin, il y a encore une personne. Je dis « Qui ? Saint-Nicolas ?» Pourtant, Saint-Nicolas l'a beaucoup aidé. Il a été sacré évêque le jour de la fête de Saint-Nicolas, dans la cathédrale Saint-Nicolas des marins de Saint-Pétersbourg. Elle a été ensevelie le jour de Saint-Nicolas. Il aurait pu être enseveli plus tôt. Mais Monseigneur a été 5 jours exposé à l'église parce que, évidemment, vous savez que c'est toujours compliqué qu'il faut avoir des visas. Il fallait que le patriarche envoie l'archevêque Serge de Stanitschnegorsk à l'époque, qui est maintenant métropolite de Voronej, pour l'ensevelissement. Donc, on attendait. Puis moi, je disais aux autorités, je dis oui, ben enfin bon, dépêchez-vous quand même. Ah oui, mais on peut mettre au frigo. Je dis non, mais pas au frigo. Ils comprennent pas ces choses-là. Mais enfin, bref, Monseigneur a été 5 jours à l'église et il a été enseveli le jour de Saint-Nicolas. Donc, ils se sont bien entendus pour finir. Donc, en 1923, il quitte, avec la bénédiction de sa mère, la Russie. C'est aussi la période de la nouvelle politique économique, vous savez, où Lénine, finalement, essaye de renoncer au communisme de guerre. Et ça a été aussi l'occasion pour un certain nombre de personnes de s'en aller. Mais enfin, il a une nature joyeuse. C'est un bon type, comme on dirait. Et donc, il va vivre une vie de bohème, sans trop se préoccuper du lendemain. Il va vivoter. Il va, par exemple, travailler dans la réalisation de décors pour les ballets russes de Diaghilev, etc. Il y avait, par exemple, il disait que c'était horrible parce qu'il fallait faire les décors de l'opéra Le Pas d'Acier. Et il fallait représenter en carton-pâte de l'acier. Et c'était très difficile. Puis bon, on nous donnait les cartons, puis débrouillez-vous. Mais enfin, il a donc fréquenté des gens tout à fait intéressants. Il avait des anecdotes des fois un peu curieuses entre Corneau et Serge Liffard. On n'entrera pas dans les détails. Mais enfin, bon, c'était un milieu assez vivant. Et il se sentait bien dans ce milieu-là. Mais en même temps, je passerai beaucoup de détails là-dessus, sa soif spirituelle vraiment ne trouvait pas de quoi se nourrir de tout ça. Et il doit, en 1926, rejoindre son père en Yougoslavie. Donc son père était, entre autres, écrivain. Je parlerai, c'est pas nécessaire d'en parler maintenant. Et il va vivre une expérience tout à fait unique à laquelle il ne s'attendait pas. Certes, il avait reçu une éducation religieuse comme toute personne bien née avant la Révolution. Il m'a souvent dit « Oh, vous savez, Père Martin, je pense que Père Yevgeny doit se retourner dans sa tombe parce que je n'arrivais jamais à retenir mes leçons de catéchisme quand il venait à la maison nous donner le catéchisme. Et puis, penser que je suis devenu archevêque, alors là, vraiment, il doit se retourner dans sa tombe. » Donc, il avait les notions qu'on avait à cette époque-là, mais sans plus. Et il est en Yougoslavie et il voit son père qui finalement est ruiné, n'arrive pas à faire publier les manuscrits qu'il voudrait faire publier, etc. Et il voit que son père lit l'Évangile. Il réalise, il découvre que son père est profondément croyant. Et son père, à un moment donné, lui dit « Oui, mais enfin, Volo, dis quand même, tu es un homme instruit, tu as lu tous les grands philosophes, mais enfin... L'Évangile, ça ne te dit rien. » Tu vois, enfin bon, comme tout le monde, autrement dit, comme personne qui s'intéresse vraiment aux choses. Et alors, ils ont des discussions très, très importantes à ce moment-là. Et à la suite de ça, ça commence à le travailler. Il se met véritablement à lire l'Évangile et à prier, ce qu'il n'avait probablement pas fait depuis des lustres. Et à ce moment-là, il a plusieurs songes qui, finalement, vont arriver à une évidence pour lui, c'est qu'il est croyant. Ça le surprend même. Et à un moment donné, il va vivre vraiment une expérience qui est tout à fait étonnante. C'est cette expérience de la rencontre avec le Saint-Esprit lui-même. Je vous donne peut-être juste lecture du deuxième songe qui va préparer cela. Voici le second songe. Donc c'est Mgr Séraphin qui, en 1976, sur la demande d'un certain nombre de personnes, a écrit ce qu'il a vécu. Il dit ce qu'il se souvient. Il y a beaucoup de monde dans la pièce. On se sent à l'étroit au milieu de bruyantes discussions. D'aucuns prétendent que le Christ était un professeur de morale. D'autres qu'il était un philosophe. D'autres encore disent qu'il n'a pas accompli de miracles et que de toute façon, sa valeur et sa personnalité ont été fortement amplifiées par des siècles de culte. Pour finir, presque tous se mettent d'accord sur le fait qu'il n'a vraisemblablement jamais existé et que pour cette raison, son enseignement n'a aucun sens ni aucun fondement. Ça fait peut-être écho à certaines conférences que les bolcheviks ont faites à certains moments pour essayer de montrer aux gens que Dieu n'existait pas. Certains gardent le silence. Je suis très triste et tourmenté par l'état d'âme des gens. Donc, il sent l'état d'âme des gens. Ma sœur aînée, il n'avait pas de sœur aînée, mais dans ce songe, il a une sœur aînée, m'observe agitée et inquiète. Je ne me contiens plus, écrit, il est le sauveur du monde. Silencieux, tous se retournent vers moi et s'aperçoivent de ma présence. Au-dessus de nous, au plafond, au-delà même, il est là et je m'éveille. Donc il a eu un certain nombre de songes qui ont été comme une préparation à la rencontre avec le Saint-Esprit. Et donc il est toujours en Yougoslavie à ce moment-là. Et je reprends la lecture. Et l'Esprit-Saint lui-même est descendu, il est entré en moi et le monde entier s'est transfiguré dans une lumière paisible, pénétrant tout indiciblement. La beauté, la paix, l'amour remplissaient souverainement le monde, visible et invisible, qui était devenu transparent dans un rayonnement céleste, saint, inexprimable. 3 jours durant, je n'ai ni mangé, ni bu, ni dormi, tant mon bonheur était absolu. Aucune parole ne saurait exprimer la béatitude de ces 3 jours et de ces 3 nuits. Seul celui qui a vécu quelque chose de semblable peut comprendre. Et il explique que le consolateur l'initie, si vous voulez, aux choses de l'Évangile. Parce qu'il ne connaît pas grand-chose. Il a un peu lu sur le conseil de son père, mais il est encore tout à fait ignare. Et la présence de l'Esprit-Saint lui montre la profondeur spirituelle des choses. Et en même temps, lui indique la direction de sa vie. Et ça, c'est une anecdote qui est presque drôle. On est en 1926. Il me faut rentrer à Paris et me consacrer au rapprochement de tous les chrétiens et de tous les peuples, dans la mesure qui peut être la sienne. Toute la nature vit en lui, dans sa gloire. La transfiguration la rend splendide. Il me faut assister aux fêtes célébrées en l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc pour mieux comprendre la voie spirituelle de la France dans le monde. C'est cette grande période où l'Église latine a canonisé Sainte Jeanne d'Arc. Et ça, c'est quelque chose qui va être tout à fait déterminant dans sa vie. En même temps, c'est là que l'Esprit-Saint l'aide à discerner qu'il deviendrait moine, alors que lui, surtout pas, hein. Il a une vie joyeuse, il est très bien, il n'est pas malheureux de sa vie, il n'a pas de chagrin d'amour, rien du tout. Il est même très, peut-être trop heureux en amour. Donc vraiment, il n'a pas du tout envie de changer de vie. puis il n'a pas non plus envie de renoncer à la peinture qui était son gagne-pain. Il disait parfois « Oh, j'ai vendu quelques croûtes, vous savez ». Donc c'était un peu, il avait cet humour qui le rend aussi tout à fait proche de Père Sophronie. Ils sont d'ailleurs de même époque, de même génération. À travers la nature environnante, illuminée par le Saint-Esprit, et à travers l'infini de celui-ci, j'étais en communion en lui avec le monde céleste. La lumière rayonnait, semblable à celle du soleil, mais elle était comme transparente, et dans cette transparence, semblable à l'éclat du diamant, il décrit comme ça, on voit le peintre presque, dans les tons de l'arc-en-ciel, tous les tons de l'arc-en-ciel étaient unis. Le rayon du soleil, et ça c'est une remarque, ça c'est tout lui, en atteignant la terre, rencontre l'air et l'eau et brille de toute la splendeur des couleurs de l'arc-en-ciel dans sa pureté céleste. Il essayait d'expliquer les choses. Et en même temps, il dit « Je n'ai ressenti aucun trouble ni aucune velléité extatique au cours de ces 3 jours et de ces 3 nuits. » Évidemment, ça l'a réjoui, mais en même temps, il fallait qu'il trouve une réponse à ce qu'il avait vécu. Parce que pour lui, le Saint-Esprit, tout ça était absolument nouveau. Alors, il est rentré à Paris et là, il a commencé à se rapprocher de l'Église. Et puis il est allé se confesser. Et en même temps, comme il dit lui-même, ses maîtres parisiens ne comprenaient pas de quoi il parlait. C'était quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et il a continué à vivre sa vie tout en se rapprochant petit à petit de l'Église. En 1934, il entre à l'Institut de théologie Saint-Serge et dès 1935, il est paslouchnik, donc obédiencier, auprès de l'église des Trois Saints Hiérarques ici.
Novice.
Oui. Et évidemment, arrive le grand drame de la division. Et pour lui, ça a été évidemment quelque chose de très difficile, mais pour lui, il n'y avait pas de discussion, il fallait rester fidèle à l'Église mère. Et une fois, je lui ai dit, mais Vladika, comment est-ce que ça a été si évident pour vous? Puis il me regarde avec un air presque incrédule, mais voyons, je ne pouvais pas abandonner l'Église qui était sur la croix. Ça, c'était ça. Et puis ensuite, je lui ai dit, mais surtout lorsque vous avez été évêque, ça devait être difficile, vous deviez avoir des pressions. Puis il me disait, non, parce qu'on n'avait pas la même logique. Les bolcheviks s'occupaient du monde. Si on s'occupe du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas nous comprendre. On est comme ailleurs. Posons une fois la question. Vous savez qu'il y a eu la période où Solzhenitsyn est venu en Occident. Il était à Zurich. Et à cette période-là, évidemment, vous voyez des gens avec le manteau, n'est-ce pas, qui tournicotait autour. C'est pour ça d'ailleurs que Solzhenitsyn n'est pas resté à Zurich, parce que les Suisses étaient trop naïfs et ne pensaient pas les dangers réels qu'il y avait. Et cette personne m'a dit, oui, quand ces gens-là entraient dans l'église, simplement Vladika restait au sanctuaire jusqu'à ce qu'ils partent. Il disait, je prie. Ils n'osaient pas entrer au sanctuaire quand même. Et pour finir, ils s'en allaient. Et comme ça, ils me laissaient tranquille. Donc pour lui, c'était quelque chose de tout à fait clair. Et je parlais tout au début de cette période héroïque. Et il reçoit l'habit monastique en 1939, des mains de l'archimandrite Athanase. Et puis le jour de Pentecôte, il est ordonné prêtre à Kaunas par le métropolite Eleuther de Lituanie, qui était un des seuls hiérarques qui était resté fidèle à l'Église mère à cette époque-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que juste avant la guerre, cette période-là, cette séparation qui a fait qu'il dit « je reste fidèle à l'Église mère », il a quitté son confesseur qui était Père Serge Bulgakov, quitté Saint-Serge, tout en ayant gardé de très bonnes relations avec Saint-Serge d'ailleurs. Et il reprend des études à la Sorbonne aussi, à ce moment-là. Eh bien, il essaye de savoir qu'un père spirituel le guide et comprenne ce qu'il a vécu. Et il retourne à un moment donné en Yougoslavie, et là, il va se confesser à Belgrade, et là, Belgrade, on lui dit, oui, on connaît un ermite dans la montagne, va voir, et peut-être que cet ermite pourra t'aider. Ce qu'il fait, et lui dit, ah, je comprends très bien de quoi tu parles, il y a un moine, Alatos, qui a vécu cela, et c'était Saint-Silouane. Et lui dit, voilà l'adresse, etc., je te donne les coordonnées, et puis écris-lui, raconte-lui cela. Et il s'en est suivi une correspondance qui malheureusement est aujourd'hui encore disparue. Je vais vous expliquer pourquoi. Et Saint-Silouane va confirmer, parce qu'il avait besoin de cette confirmation, est-ce que je n'ai pas imaginé, est-ce que ce n'est pas l'illusion spirituelle, etc. Et Saint-Silouane va confirmer ce qu'il a vécu, affermir cela, enraciner cela et, avec beaucoup de douceur, le guider vers le monachisme. La prière de Jésus aussi, je parlais avec Émilie hier encore, j'arrive plus à me souvenir si c'était métropolite Antoine de Souroges ou bien Père Serge, avec qui il était très lié, qui disait que c'était Monseigneur Séraphin qui avait initié à la prière de Jésus. Ça a d'ailleurs pas peu d'importance tout ça. Donc il a vécu une période aussi de grands travaux spirituels, de grands travaux ascétiques, parce qu'il avait une nature très forte, et c'est vrai que si vous voyez des vieilles photos de Petel, Vladika est quelqu'un de très grand, de très fort, c'était quelqu'un de très incarné. Et je me souviens que ce n'était pas une sorte de moine diaphane comme ça. Quand il vous embrassait, c'était comme Père Sophronie à vous faire éclater les côtes. Enfin, c'était quelqu'un d'être profondément incarné. Et il a vécu une période très dure où il a essayé de travailler à vaincre ses passions. Et ça l'a d'ailleurs conduit à la tuberculose. Bon, il y a eu la guerre, c'était épouvantable. Ça a décimé le clergé de Petel, cette période de la guerre. Il a vécu des moments très beaux avec la guerre parce que, vous savez, c'était simple. Les Français ont dit, vous les Russes, parce qu'il y avait le pacte germano-soviétique, donc du côté, ils étaient du mauvais côté, les Russes, même émigrés, ils étaient suspects. Alors, il dit, vous avez le choix en deux choses. Soit c'est le camp d'internement, beaucoup ont vécu cela, soit c'est l'armée française. J'ai dit, Vladika, vous n'avez pas hésité? J'ai dit, non. Ah, la France, vous savez, c'est le pays qui nous a accueillis. Alors, il était d'une indulgence avec la France. Je peux parler, je ne suis pas français. D'une indulgence, oui. Les Français pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. C'était toujours magnifique. Je dis, Vladika, quand même, vous avez une indulgence un petit peu coupable. Ah, vous savez, c'est le pays qui nous a accueillis. Donc, il est engagé comme sanitaire et il va vivre la grande débâcle. Quand les troupes sont là au front, qu'il n'y a plus un officier, ils sont tous carapatés. Et surtout, il a vécu, il disait très drôlement, il disait, oui, tous ces soldats, ils avaient des trous partout. Il les voyait mourir, et il venait d'être ordonné prêtre, il avait toujours la communion avec lui, et il assistait les mourants, qui n'étaient pas orthodoxes forcément, il y en avait peut-être un ou deux qui traînaient dans la nature peut-être, mais enfin... Il leur a donné la communion à ces catholiques qui étaient en train de mourir. Et il disait, tous ces soldats qui mouraient, il y avait une paix autour d'eux dont on n'a pas idée. Au milieu de cette folie, il y avait au moment de la mort une paix indicible et le Christ était là. Et il a vécu cette période-là de manière assez belle au fond. La période de la guerre... Elle a été ce qu'elle a été. Ça, j'ai appris après son décès. C'est qu'il participait, il me l'avait dit, mais pas la fin de cet épisode-là, à la filière pour faire sauver les Juifs de Mère Marie, Skoptsova. Et puis, il me disait toujours, je disais à Mère Marie, Mère Marie, Mère Marie, il ne faut pas les garder comme ça chez vous, vous allez vous faire attraper. C'est ce qui est arrivé. Lui, il s'est fait attraper aussi, ça, il ne m'a pas dit. Et quand il a été mis dans le camp de tri, son état avec la tuberculose était tel que l'officier SS l'a regardé et lui dit « Pouf, toi tu ne vaux même pas une balle dans la tête ». Il l'a renvoyé parce qu'il était pragmatique. Il va prendre une place dans le wagon, donc il arrivera en tout cas mort là-bas, donc il ne pourra pas travailler. Ça l'a sauvé. Et ensuite, on l'a envoyé en Suisse, à Davos, pour se soigner. Ça a été véritablement miraculeux. À la fin de la guerre, donc, je vous en parlais, il est nommé à la paroisse de Zurich. Et là, il avait eu un songe où il voyait une terre aride, toute craquelée comme dans un désert. Et il éprouvait une souffrance terrible, spirituelle. Et au milieu de ce désert, poussait une rose. Et il a eu, c'est difficile d'expliquer comment il a eu cette parole, si vous voulez, qui disait, eh bien, cette fleur, c'est l'orthodoxie qui poussera là. Donc, par rapport à ce que le Saint-Esprit lui avait révélé de se consacrer au rapprochement des gens, etc., à l'apostolat, eh bien, ça va se manifester dans cette terre aride dans laquelle il ne voulait surtout pas aller. Et Père Serge, quand Vladika, pour une fois ou l'autre, rentrait, Père Sergeevitch, quand il revenait à Paris, il disait « Ah, voilà l'apôtre d'Helvétie qui arrive !» Et c'est vrai que Vladika a été comme cela. C'est lui qui a fait le travail, entre autres, le travail préparatoire à l'entrée de l'Église russe au Conseil œcuménique. Il a, à travers la paroisse de Genève, il a donné des cours, que ce soit à l'Université de Genève, de Zurich, etc. Et pour lui, l'essence même de l'orthodoxie, c'était l'amour. Il n'y a pas autre chose, ce n'est pas des explications, c'est l'amour vivant et à l'œuvre. À l'œuvre, pas au sens protestant, attention, mais qui ne peut pas rester stérile, qui ne peut pas être cantonné dans le cerveau, mais qui doit rayonner de la personne. Et Vladika a eu toutes sortes d'épreuves, il ne voulait pas être évêque, il est devenu évêque à plus de 60 ans, parce que Patriarche Alexis Ier, dont il était extrêmement proche, et il dit lui-même que Patriarche Alexis a été celui qui a compté le plus dans sa vie après Saint-Silouane, voulait toujours un évêque en Russie. Et Monseigneur disait toujours « Non, 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 sainteté, c'est pas possible parce que je suis beaucoup trop, j'ai un cœur beaucoup trop tendre et les bolcheviks me briseront. » Il a toujours refusé. Ce qui est très drôle, c'est que le patriarche disait rien. Il donnait quelque chose. Une fois, il lui a donné une mitre qui a une histoire très drôle parce qu'au moment où l'autocéphalie a été je vous dis une bêtise. Cette mitre avait été donnée à l'église de Chine, à la mission en Chine, et puis à un moment donné, c'était revenu en Russie, puis il dit ben, pour un apôtre, voilà. Et une autre fois, c'était une icône de la Mère de Dieu de Kazansk, qui est très vénérée au monastère, qui est très forte en prière. Vous avez un adjectif en russe, on ne peut pas dire ça en français, très riche, très dense en prière. C'est une iconographe qui m'a dit ça. C'est merveilleux de pouvoir dire ça. Parle de cette icône-là. Voilà. Et donc, Patriarche Alexis ne disait rien. Il a accepté l'épiscopat en 71. Il a été le premier évêque sacré par Patriarche Pimen, uniquement parce qu'il a eu la garantie de rester en Occident. Et on lui a confié à l'époque, c'était l'époque de l'exarchat, donc de la Suisse et de l'Italie. Et le doyenné actuel des paroisses italiennes, dans son noyau solide d'aujourd'hui, est en grande partie le résultat de son travail. Mais c'était quelqu'un qui essayait, ce qui m'a toujours frappé dans sa vie, c'est qu'il a connu et côtoyé énormément de gens, soit connus, soit célèbres, mais lui n'apparaît jamais. Il est comme en retrait tout le temps. Pourtant, il était grand de taille, on le remarquait tout de suite, mais lui essayait toujours de disparaître. Mais en même temps, ce n'était pas quelqu'un de fade, c'était quelqu'un d'extrêmement vivant, de très drôle. On a beaucoup ri. Au fond, il était comme un enfant. Il n'était pas infantile, mais il était comme un enfant. Et je puis dire que nous avons même pu, entre guillemets, comme des enfants, jouer à l'église, dans l'église. Comme des enfants, très simplement. Il plaisantait de choses très simples et il y avait toujours de la bonté. Cela dit, il avait son caractère aussi. Je me souviens d'un prêtre qui s'était fait tenser plus que vertement et que Monseigneur avait éconduit de manière plus que brutale. Mais en même temps, il n'y avait jamais de rancœur. Il a vraiment donné la joie à ceux qui l'ont rencontré. Alors on pourrait dire les liens avec saint Silouane. Il n'est pas disciple dans le sens qu'il aurait reçu un enseignement de saint Silouane. Il a vécu quelque chose qui lui a été particulier et saint Silouane est venu là comme confirmation, comme guidance, comme enracinement. Et dans ce sens-là, les liens sont très forts. Et il me disait toujours, oui, Père Martin, je suis peut-être votre père spirituel, mais n'oubliez pas, Saint-Silouane, c'est votre grand-père spirituel. Et c'est vrai qu'il ne faut, faut jamais oublier dans quelle ligne on est. C'était quelqu'un qui n'était absolument pas prudent. Il s'en fichait royalement du qu'en dira-t-on. Par exemple, il a toujours gardé une amitié indéfectible à son compagnon de jeunesse. D'ailleurs, ils étaient de la même année. Ils ont été ordonnés tout à fait, quasi en même temps, qui était Yevgraf Kovalevski. Il disait, vous savez, Yevgraf était très original. Oui, ça je sais. Mais il disait, mais en même temps, il a suscité beaucoup de jalousie. Puis je dis, pourquoi? Puis il rigole, puis il me dit, mais parce qu'il était le plus brillant de nous tous. Ça gêne toujours. Et il le disait de manière très simple, comme ça. Ça gêne toujours. Il soutenait cet élan d'amener l'orthodoxie à l'Occident. Il disait, comme tous ceux qui ont participé à la fraternité, à la confrérie Saint-Fossius, tous ces gens-là, ce qui est frappant, c'est leur liberté, c'est leur curiosité. C'est leur grande qualité, qu'elle soit intellectuelle. Ce n'étaient pas des gens médiocres, aucun. C'était tous des gens brillants. Donc, comme souvent les gens brillants, ben, ils se chipotent. Et puis, on est ami de celui-ci, puis pas de celui-là, puis enfin, ça devient de plus en plus compliqué. Mais il y avait une chose qui était vraiment commune à tous, c'est que Dieu, pour eux, et c'était simple, Dieu a permis la révolution et donc l'exil terrible, pour que l'orthodoxie soit de nouveau vécue ici. Pas dans un sens de... mais de témoignage de foi. On voit la situation de l'Église latine aujourd'hui, elle était différente, la situation de l'Église latine, dans les années 30. Il y avait de grands théologiens catholiques aussi, il y avait des grands échanges de dialogues, de pensées, etc. Mais... il fallait essayer de trouver les moyens de donner cette orthodoxie aux occidentaux. Par exemple, la liturgie occidentale de Monseigneur Jean de Saint-Denis, de Berievgrav Kavalevski avant, Monseigneur l'a célébrée plusieurs fois, et, avec la bénédiction de Patriarche Pimen. Puis une fois, je lui ai dit, mais Vladika, vous, laquelle des deux liturgies vous préférez? Mon gars, voyons la nôtre quand même. Mais, il disait, il faut un outil qui parle, qui touche les âmes pour les amener à la plénitude de la foi. Le rite est secondaire. Ça, on ne doit pas se battre pour un rite ou un autre. On doit se battre pour l'orthodoxie. Il disait, mais mon Dieu, nous parlions de la liturgie de Saint-Jacques, etc. Il y a plusieurs liturgies. Ce n'est pas le problème. Il disait, c'est l'essence même de l'orthodoxie. Et donc, il avait une très grande ouverture. Et en ce sens, ce que saint Silouane a vécu lui-même, et ce que ses différents enfants spirituels, dans leur vie particulière, leur chemin particulier, cette liberté-là, qui leur est commune à tous, elle est véritablement le fruit du Saint-Esprit. C'est la vie dans le Saint-Esprit. Mais il y a toujours la vigilance spirituelle là derrière. Parce que sinon, c'est ce que j'estime être le meilleur, qui, etc. Et puis tout d'un coup, on change de registre. Et c'est toujours très, très dangereux. Toujours la vérification du Père spirituel. Toujours vivre dans le repentir. Chercher le repentir. Et un autre aspect. Tu parlais tout à l'heure de la croix. Vladika parlait très peu de ça, mais il a vécu véritablement l'enfer à certains moments donnés. Il dit, je retrouve juste la chose à propos de l'enfer. Dans mon inexpérience, ma naïveté de novice, je priais ardemment devant la crucifixion qu'il me soit donné une vie d'anachorète et de martyr. Je l'ai obtenu au-delà de toute mesure, au-delà de mon attente la plus ardente. Et il dit à un moment donné, parce qu'il a vraiment eu des périodes comme ça de très grande sécheresse spirituelle, et à un moment donné, je lui ai dit, mais Monseigneur, vous êtes sorti de ça. Et là, j'ai compris quelque chose qui m'avait beaucoup interrogé. Monseigneur avait évidemment ordonné beaucoup de prêtres, et quand il allait en Russie, il disait, c'est toujours bizarre, quand je sève dans une cathédrale, hop, on m'apporte des candidats, je dois ordonner des prêtres, je ne les connais même pas. Il dit, j'en ai ordonné beaucoup, en Italie et partout, oh, beaucoup sont dans la nature. Mais j'ai fait peu de moines. Puis j'ai dit, pourquoi ? Je ne peux pas faire les moines. J'ai dit, mais pourquoi ? Je ne peux pas leur mettre la croix du Christ sur le dos. Ils ont la leur propre à porter. Mon cœur saigne de leur mettre encore, de les faire participer à la passion du Sauveur. Je ne peux pas, c'est trop. Et ils disent cela, ça j'ai compris une fois quand j'ai essayé de creuser la chose, et il m'a écrit, griffonné ça, « Dans les souffrances indicibles et l'angoisse, étant en enfer, mais quand ces atrocités diminuèrent, j'ai demandé au Christ pourquoi, c'est sans parler à lui, j'ai à subir ces douleurs spirituelles. Est-ce uniquement à l'infini de mes péchés, leur énormité ? J'ai une réponse douce et nette. Je montre ce que j'ai pris sur moi pour racheter tous les péchés du monde, ce que j'ai souffert des incalculables perversions. » Ça, c'est un mot que je n'arrive pas à lire. « À ceux que j'aime particulièrement et pour les faire participer. » Bon, ça, des phrases un peu étranges. Et ça, celui comme évêque, comme igoumène, celui qui va mettre la croix pour les vœux, pour lui, c'était trop dur. Et je me souviens que lorsqu'il a reçu mes vœux, à moi et à Mère Ottilia, qui est ma sœur, selon la chair, c'est drôle, maman dit toujours, j'ai une fille qui est ma mère. Ben oui. Eh bien, c'était le jour de l'ascension 96. Il a repoussé. Il nous a fait rire sauf fort très vite. Mais les vœux, rien n'a fait. On dit, mais Vladika, qui d'autre que vous peut recevoir nos vœux ? Personne d'autre. Ah non. Puis je suis malade. Ce jour-là, je suis malade. Il ne voulait pas. Et puis, à un moment donné, Mère Ottilia est allée vers lui et lui a dit, écoutez, Vladika, maintenant, on sait très bien que vous n'en avez plus pour longtemps. Maintenant, il faut le faire. Maintenant, vous êtes à peu près en état. Oui, je sais. Et il a fait ça le jour de l'ascension 96. Et il y a une ou deux photos qui ont été faites, mais il a un visage douloureux. Il n'est pas joyeux. Pour le Riasophora, il était très joyeux. Mais pas pour les vœux. Il dit, je vous mets la croix du Christ sur le dos. Et il le vivait ça très fort. Alors, en même temps, Père Sophronie, ça riait après. Mais c'était comme faire participer dans l'intimité même de la vie du Christ. Finalement, ce n'est pas autre chose que la vie chrétienne tout court. La vie monastique, c'est la vie chrétienne simplement dit. Alors, maintenant je vais arrêter parce que je prends aussi beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses à dire sur Monseigneur Séraphin. Simplement, il ne faut jamais oublier que cette maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui a donné des personnalités extraordinaires. Pas pour s'en vanter, mais parce qu'ils ont vécu dans la souffrance, dans le rejet. Pas dans le sens, oui, on nous a rejetés, c'est pas ça. Mais c'était un fait. Ils vivaient dans la modestie, dans la simplicité. L'évêque couchait dans le couloir. Enfin, c'était lamentable. On envoyait pendant la guerre le diacre au hall chercher les restes des invendus le matin pour se nourrir ou de ce que les paroissiens donnaient. C'était incroyable. C'est pour ça qu'ils sont tous partis au ciel très vite. À la fin de la guerre, ils faisaient quand même l'office complet en se levant à des heures impossibles. Ils faisaient tous les offices, la même chose le soir. Et pendant la guerre, on confessait des fois jusque minuit. Ils disaient, c'est incroyable. Mais c'est le prix de cette souffrance-là, c'est pas un tel a souffert et pas tel autre. Peu importe qui souffre, mais cet évangile vécu véritablement dans une situation où on ne peut simplement pas tricher, c'est aussi bête que ça. Là, les fruits de sainteté viennent. Et Monseigneur Séraphin, je peux le dire vraiment très, très simplement, ce n'est pas parce qu'il était mon père spirituel, ça n'a aucune espèce d'importance, ça. Mais est véritablement mort en odeur de sainteté. Et c'est vrai, une semaine durant, à l'église, ça sentait le miron. Je me souviens, je ramène archevêque Serge à Genève, à l'aéroport. On est encore passé chez une personne, une visite. On arrive, c'était vers 1h le matin. Et Père Silouane me dit, allez vite à l'église. J'ai dit, quoi donc ? J'entre à l'église, j'ai reconnu immédiatement ce parfum que j'avais pu sentir près d'icônes qui sointent le miron. Alors, je me suis dit, il n'y a personne qui me regarde. Je commence à renifler les icônes. L'endroit où il était, non, c'était simplement dans le lieu. Ce n'était pas l'encens à prétendeur. Et c'est resté une semaine. Ce n'est pas une chose pour faire du merveilleux. Ce n'est pas de cet ordre-là. C'est comme quelque chose que vous dites, mais vous inquiétez pas, je suis toujours là. Donc, il y a eu des destins comme ça. Et pour nous qui vivons là où nous vivons, qui vivons ce que nous avons à vivre, il ne faut pas oublier tous ces gens. Parce qu'ils sont autant d'aide au ciel. Parce que le ciel et la terre ne sont pas séparés. C'est nous qui sommes aveugles. Mais lorsqu'on essaye d'être dans le Saint-Esprit, cette réalité est plus réelle que celle dans laquelle on vit. Voilà, je vais arrêter. Mon Dieu, quelle horreur.